14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Alors je ne crois pas que les femmes soient plus sensibles que les hommes. Nous avons tous des émotions multiples. Et en revanche, et c'est un peu le sujet aujourd'hui, nous ne réagissons pas de la même manière. Alors je sais que ce n'est pas politiquement correct, pourtant c'est essentiel de le comprendre parce que c'est la seule solution pour mieux communiquer entre hommes et femmes. Donc en fait, pour simplifier, je vais dire que les femmes sont plus en relation avec leurs émotions, avec ce qu'il y a de positif, puisqu'elles sont plus à l'écoute, mais en même temps, elles ont aussi tendance à se laisser envahir par leurs émotions et avoir besoin d'en parler encore et toujours. Les hommes, en revanche, sont peut-être moins à l'aise avec leurs émotions et ils ont besoin de réagir. Ils ont besoin d'agir, en quelque sorte, plutôt que de parler pour évoquer ce qu'ils ressentent. Et cette différence, elle est à l'origine de bien des malentendus dans les couples, parce que quand madame exprime son émotion, elle a besoin juste d'être écoutée, mais monsieur aura tendance à lui proposer une solution immédiatement. Robert Zwilly est avec nous, c'est notre spécialiste en émotions. Je l'appelle souvent docteur en émotions. Et bien, dans un instant, il va donner son avis déjà, et puis je vous invite à venir témoigner pour nous dire comment vous communiquez vos émotions avec votre partenaire, et pour ça, vous nous appelez au 0 826 300 300. Bonjour Robert Zwilly.
Bonjour Brigitte, et bonjour à vos auditeurs.
Alors justement, les émotions, c'est incroyable parce que vous êtes tout régulièrement sur Sud Radio pour parler d'émotions, et on n'a jamais abordé ce sujet qui est pourtant essentiel.
C'est vrai, alors qu'on s'adresse aux hommes et aux femmes, et probablement chacun d'entre nous, on n'a pas la même capacité à se connecter à nos émotions, alors que c'est précieux. L'émotion peut véritablement être une alliée, faut en être sûr de ça. Mais je trouve que ce que vous disiez en préambule est très juste, c'est-à-dire que vous l'avez peut-être exprimé au regard de ce que vous ressentez ou percevez compte tenu de votre longue expérience des relations humaines, de couple, mais il y a des expériences scientifiques qui l'ont prouvé, ce que vous dites. Notamment, ce sont des neuropsychologues canadiens qui se sont amusés, entre guillemets, à prendre des photos d'hommes et de femmes exprimant soit la peur, soit le dégoût. Et il s'avère que quand ils mettent un homme et une femme face à ces photos, les femmes identifient correctement, beaucoup plus rapidement, l'émotion ou la sensation, puisque la peur est bien une émotion alors que le dégoût est une sensation. Et les femmes ont cette capacité à identifier beaucoup plus rapidement l'émotion.
En voyant le visage de la personne qui est photographiée.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les émotions exprimées par les femmes sont aussi plus rapidement reconnues sur les photos que les émotions exprimées par les hommes. Donc c'est comme si elles avaient en plus la capacité à traduire les émotions de manière plus forte, plus fidèle.
Les mimiques de leur visage.
Par les mimiques de leur visage. Et ça rejoint ce que vous dites en fait. Nous les hommes, on a tendance à être prudents, parfois même à se méfier de nos émotions. Parce que l'homme, il a besoin de contrôler, très souvent. Et alors que la femme, de ce point de vue-là, elle est accueillante vis-à-vis de ses émotions. Le fait de les accueillir, ça aussi une caractéristique, c'est que on peut se laisser submerger par ses émotions. Et c'est ce que vous exprimiez quand parfois certains hommes disent « Mais attends, tu me fatigues à parler sans cesse ». Et c'est un équilibre précaire qui doit se trouver entre l'homme et la femme pour réussir à se rejoindre et sur quel terrain se rejoindre. Mais je trouve que ces expériences-là, qui sont simples à mettre en œuvre, démontrent bien quelque chose qui est ancré au-delà de l'éducation. C'est-à-dire qu'on pourrait même se demander si c'est pas dans les gènes, quelque part. Et il y a une pièce de théâtre qui illustre ça, enfin un livre,
celui
de
John
Gray, Mars et Vénus. Et c'est intéressant parce que si on va dans la symbolique de Mars et Vénus, si on reprend l'histoire, Mars c'est un dieu grec, Arès qui est le dieu de la guerre, qui est un très bel homme certes, mais c'est le dieu de la guerre. Vénus c'est la déesse de la beauté et de l'amour. Mais sauf qu'ils sont pas couple tous les deux. Il y a Héphaïstos qui est le mari de Vénus au départ et qui surprend Mars et Vénus dans le lit conjugal et qui répudie du coup Vénus, et comme ça ils peuvent vivre leur amour et ils ont des enfants. Mais ce qui est intéressant, c'est la symbolique qu'il y a derrière ça. C'est-à-dire que en fait la femme Elle est un gage d'esthétique, de beauté, de sensibilité. Alors oui. Que l'homme, il fait la guerre. Donc, on n'a pas d'état d'âme
à avoir.
Ce
que vous disiez d'ailleurs quand on préparait l'émission tout à l'heure, vous disiez l'homme est toujours dans le réel. Et je crois que ça, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre.
Oui.
Nous, on va avoir besoin peut-être plus de s'éloigner du réel, justement. Et c'est là déjà où il y a une différence fondamentale.
Oui, alors là, ça fait référence à d'autres travaux d'études que j'ai menés au travers des théories que j'ai développées sur les émotions. C'est-à-dire que j'ai découvert que nous, hommes et femmes, avions des filtres différents dans notre manière d'appréhender le monde. Il y a trois registres que j'appelle le réel, l'imaginaire et le symbolique. Le réel, c'est celui de l'action. Est bien souvent préféré par les hommes. C'est-à-dire, statistiquement, on retrouve les hommes investissent beaucoup plus les femmes que les femmes le réel. Et donc ça donne quoi ? Ça donne le réel, ça renvoie à une notion qui est celle du résultat, de ce qui est tangible, de l'action, de la légitimité par ce qu'on fait et ce qu'on obtient. Et donc, il n'y a pas d'état d'âme. On est dans la raison, dans les faits
un
et dans
un,
le tangible.
Ça fait deux.
Voilà.
Pour nous, un plus un, ça fait un couple, ça peut faire trois, s'il y a un enfant
trois.
Qui arrive. Enfin, c'est ça le symbolique, hein, pour essayer, parce qu'il faut quand même expliquer clairement à ceux qui nous écoutent ce que c'est que le symbolique. Et je trouve que de jouer avec les chiffres, alors on peut même s'amuser à faire 2 plus 2, ça fait 4. Pour un homme, c'est pareil, évident, il n'y a rien d'autre.
Oui,
mais pour une femme,
2
plus 2, parfois, oui, ça va pas faire 4. Hein.
Mais oui, parce que dans la symbolique, il y a un besoin, c'est celui de donner impérieusement du sens à ce qui se passe. Et donc, quand on ne donne pas de sens, et c'est ce qui se passe parfois dans le dialogue de sourds qu'il peut y avoir entre un homme et une femme, l'homme, il dit quelque chose et il ne met pas de sens derrière. Mais la femme, elle ne peut pas garder ça.
Et si on prend l'exemple de la sexualité,
oui.
Je prends un exemple par hasard. Hein.
Oui, c'est quoi la sexualité ?
Je vais vous expliquer.
D'accord.
Vous, pour un homme, évidemment, il faut parler de sexe. Si on parle de sexualité, déjà, un homme, il est dans le réel.
Merci.
Et on lui parle
Merci.
De sexualité.
Il ne comprend pas.
Dans le sexe, donc c'est un pénis qui rentre dans un vagin. Voilà, ça, vous comprenez. Hein,
jusque-là, je vous suis.
Bon, et bien la femme, si on lui parle de sexe, déjà, elle va dire « Oh là là, quelle horreur !» Et si on lui parle de sexualité, elle va dire « Oui, c'est deux personnes qui sont attirées, qui s'aiment et qui peut-être vont avoir un rapport sexuel. »
Exactement.
Et là, on est dans la symbolique.
On est dans la symbolique.
Je crois que tout le monde aura compris.
Oui, parce que dans la symbolique, ce qui est important, c'est de capter aussi l'intention. Et c'est ça qui est souvent important pour certains hommes et qui ne comprennent pas. C'est-à-dire que les femmes ont besoin de comprendre l'intentionnalité de l'homme. Alors que l'homme, l'intentionnalité de la femme, parfois, il s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'elle fait pour moi ?
Baiser.
Voilà. Est-ce qu'elle est capable de répondre à mes besoins sexuels ? Bon, moi aussi, je peux. Est-ce qu'elle s'occupe bien de la maison ? Est-ce qu'elle s'occupe bien des enfants ? Etc. Alors que la femme, c'est pas seulement ça. Évidemment, cette fonction-là, elle est importante. Mais elle va avoir besoin de capter des signaux faibles. Est-ce qu'il a reconnu le fait que j'avais changé de coiffure ? Est-ce qu'il a vu que j'avais changé ma manière de me maquiller ?
Non.
Ben voilà. Eh ben, c'est ça, la symbolique. La femme va être sensible à ça, alors que l'homme, il s'en fiche. Qu'est-ce que ça change ? Oui, ça te va bien. Mais c'est tout, on en reste là. Et c'est ça qui est troublant, c'est que...
Et d'ailleurs, une femme qui va faire l'effort de s'habiller pour aller au restaurant, parce qu'elle est toute contente qu'il l'invite au restaurant, si elle lui demande comment tu me trouves, etc., franchement, elle a tout faux, parce qu'elle va avoir forcément une réponse qui va lui gâcher la soirée.
Elle risque d'être déçue du manque d'attention, parce que ce qui est important dans la symbolique, et moi je le vois aussi, vous savez que j'interviens beaucoup en entreprise, mais la symbolique est importante aussi en entreprise, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont besoin de la reconnaissance, donc du regard de l'autre. Et quand on ne l'obtient pas, ça nous met en souffrance, ça nous met en difficulté. Donc quand vous avez un manager qui ne fait pas de compliments à une collaboratrice, elle se dit, il ne m'apprécie pas en fait, sinon il me le dirait. Et ça paraît caricatural, mais c'est tellement fréquent. Et il y a tellement d'hommes qui passent à côté de cette capacité à être attentif à l'autre sur des choses qui n'ont pas de valeur, à leurs yeux, alors que ça en a terriblement pour ceux de la femme.
Eh bien, on va travailler dans le concret, puisque grâce à vous qui allez témoigner, vous allez nous dire si vous vous sentez compris dans vos émotions, si vous avez l'impression qu'elle en fait peut-être trop ou qu'il ne vous écoute pas. Bref, vous nous appelez au 0826 300 300 sur Sud Radio. Et c'est Marie qui, dans un instant, prendra la parole.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Et nous sommes aujourd'hui avec Robert Zuilly. Nous évoquons les émotions, la différence entre les hommes et les femmes. Et c'est Marie qui commence avec nous. Bonjour Marie.
Bonjour Brigitte, bonjour Robert.
Bonjour Marie.
Je suis très contente de vous parler. Je vous écoute souvent et je suis très contente de vous parler. Moi, je suis comme tout le monde. Hein. Je pense que je suis traversée par des émotions multiples, comme vous avez dit, Brigitte. Moi, les émotions qui sont les plus prégnantes chez moi, c'est la joie, parce que je suis quelqu'un de gai et de vivant. Mais aussi la tristesse et la colère. Et ça se retrouve dans mon couple, en fait. Je suis en couple depuis plus de 7 ans.
Oui.
On a des tempéraments très différents. On a réussi déjà pas mal harmoniser nos deux tempéraments, mais il y a des problèmes qui subsistent, comme dans tous les couples, je pense, et qui réapparaissent souvent en situation de stress. Et notamment, c'était très intéressant ce que vous avez dit en préambule. J'ai écouté attentivement, et c'est vrai que nous, moi, j'ai l'impression que les femmes sont très différentes des hommes. Et personnellement, en tout cas, j'ai plutôt tendance à beaucoup exprimer ce que je ressens. J'ai en face de moi un homme charmant, agréable, assez souvent attentionné, mais en revanche, qui peut être très mutique. Et c'est très compliqué, en fait. Moi, j'ai beaucoup de mal.
C'est-à-dire que vous aimeriez que lui aussi puisse exprimer ses émotions.
Bah oui, en fait, quand je communique, oui, et que je fais quelques remarques, qui sont pas forcément des critiques en plus, qui peuvent être simplement des remarques, il le prend systématiquement très mal et très à cœur.
Ouais, ça c'est quelque chose qu'on entend souvent, hein, Robert Zulli. L'homme se sent tout de suite critiqué dès qu'une femme dit quelque chose.
Oui, ils sont remis en cause. Ben, vous savez, quand on n'interpelle pas ses émotions, du coup, on est moins facilement dans la remise en question. Parce que quand vous ressentez des choses et que vous les témoignez, ben, du coup, vous êtes capable de faire des hypothèses sur ce que vous ressentez. Est-ce que je ressens ça pour ça ou pour ça ? Quand on le fait pas, du coup, on se sent agressé par ceux qui nous parlent de ce qu'ils ressentent.
Mais c'est terrible ce que vous dites. Ça veut dire que l'homme passe quand même un peu à côté de lui-même.
Ah ben, dans de nombreux cas, malheureusement, c'est le constat qu'on peut faire, oui. Oui,
triste,
bien sûr.
Bien sûr,
c'est triste. Et quand certains, alors évidemment, faut pas entendre ce que nous sommes en train de dire comme étant une généralité absolue. Ce sont des tendances de fond, mais qu'on retrouve régulièrement. Après, il y a une palette de variations très importantes dans ces expressions-là, et c'est la richesse du monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que parfois certains hommes qui sont dans le réel, comme on l'évoquait tout à l'heure, donc qui disent les choses qui sont pour eux intangibles, ben quand ils expriment leurs émotions, qui a un ressenti, ils expriment comme si c'était la réalité. Et ils sont donc perçus comme péremptoires quand ils expriment leurs émotions. Et donc, quand on exprime ces émotions...
Oui, quand le conjoint de Marie ressent la remarque comme une critique, il est persuadé que c'est la réalité.
Exactement. Et donc, ça le confronte à quelque chose, peut-être avec lequel il n'est pas d'accord. Et donc, il se sent agressé.
Et là, il se tait complètement. Il ne dit plus rien du tout.
Parce que c'est un mode de repli. Parce que
il est vexé et il boude. La bouderie, je le rappelle toujours, c'est une agressivité passive.
C'est ça.
Ouais.
Mais parce qu'il ne sait pas le gérer. C'est surtout ça. C'est-à-dire que. Et comme il a peur de mal s'y prendre s'il essaye de le gérer, il préfère se taire. Alors parfois, il vaut mieux se taire que de dire des choses très blessantes ou être violent.
Ou repartir sur des critiques vers l'autre.
Voilà.
Oui, mais alors. Comment on peut faire Marie ? Parce que alors il faut plus faire de remarques.
C'est ça le problème. Petite remarque à faire.
Oui, allez-y.
Si vous me permettez. J'ai vraiment appris, on peut dire depuis au moins une bonne année, à revoir un peu mes exigences à la baisse.
C'est terrible.
À contenir vraiment mes émotions. J'étais vraiment quelqu'un qui était trop entière, je pense, et qui disait vraiment facilement un peu tout. Et là, maintenant, comme je m'aperçois, entre guillemets, des dégâts que je peux faire chez lui, je revois vraiment beaucoup à la baisse, mais parfois je me dis que ça peut m'être préjudiciable à moi.
Ça peut même être préjudiciable au couple, parce que du coup, vous vous éloignez un petit peu quelque part. C'est ça le danger.
Le risque, c'est qu'en vous censurant pour protéger le couple, vous vous mettez en danger parce que vous êtes déconnecté de vous-même. Plutôt que de vous censurer, apprenez à dire les choses. L'expression de ses émotions, c'est pas forcément faire des reproches à l'autre ou remettre l'autre en question, comme parfois certains peuvent le faire ou peuvent le ressentir quand on est de l'autre côté. Mais c'est être capable de parler de soi. Et si vous voulez vous en sortir, tout à l'heure Brigitte vous disait, mais comment on fait ? Dans ce cas-là, ce que je recommande, c'est de poser des règles dans le couple. C'est-à-dire que d'expliquer que c'est pas parce que j'exprime mon ressenti que c'est forcément la réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je ressens ça te concernant que c'est vrai, mais c'est comme ça que moi je le vis. Et on peut en discuter. Et ça, ça pose une base de dialogue qui évite de se dire « Ok, quand tu dis quelque chose, on peut en discuter, on peut le remettre, on peut le partager. »
Et je crois que ce qui est important aussi, Marie, c'est que quand vous faites une remarque, parce que si vous finissez par ne plus faire de remarques, ça met le couple en danger. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. Oui. Si on ne peut plus faire la moindre remarque à l'autre, on peut plus communiquer. Donc, quand vous faites une remarque, si vous constatez qu'il a pris ça pour une critique et qu'il s'enferme, je crois qu'il faut oser revenir sur « excuse-moi, quand je t'ai dit ça tout à l'heure, je me suis mal exprimé ».
Alors, c'est pas forcément, il ne faut pas faire un mea culpa non plus. C'est-à-dire qu'il faut dire « voilà quelle était mon intention ». Il faut clarifier son intention.
Moi, je crois que le mot « excuse-moi » rouvre caverne de l'homme dans lequel il s'est enfermé.
Alors, plutôt que « excuse-moi », c'est « je suis désolé ». Parce que « excuse-moi », c'est qu'on se sent coupable. On n'a pas à se sentir coupable de quelque chose qu'on ressent.
Jouer sur les mots,
Mais c'est important.
Marie, bien d'accord.
C'est important.
On n'a pas dit qu'il fallait se mettre à genoux et faire une fellation. On a juste dit qu'il fallait dire « excuse-moi ».
Ah, c'est pas ça, s'excuser. Ben voilà, faut définir le cadre et quelques règles dans le couple, parce que vous avez raison, ce dont ça parle là, c'est de la susceptibilité de votre mari.
Oui.
Et c'est dérangeant, la susceptibilité, parce qu'on se sent pas libre de dire ce qu'on aurait envie de dire. Et le remède, bien souvent, c'est de dire, quand je vais exprimer quelque chose, c'est de moi dont je parle. Que ça te concerne, bien sûr, mais on est là pour en dialoguer. C'est pas une remise en cause, c'est pas une attaque personnelle. Alors même si je suis maladroit, et c'est là où on peut dire je suis désolé si j'ai été maladroit, à ton avis. Mais s'excuser, vraiment j'insiste dessus, il n'y a pas de raison de s'excuser. Parce que quand on s'excuse, c'est qu'on se sent coupable et on n'a pas à se sentir coupable.
Moi je suis capable de dire excuse-moi sans me sentir coupable.
Oui,
Robert,
mais alors vous n'êtes pas forcément sincère à ce moment-là quand vous
mais
le dites.
Mais alors,
alors
si
que
ça
si
marche.
Vous dites je suis désolé, bah oui, mais...
Attendez. Excusez-moi.
Si on était un couple et que vous me disiez ça, j'accepterais pas, Brigitte.
Oui,
je vous dirais, ben non, je m'en fous que tu sois.
Mais
tu
je risque pas d'être en couple avec vous.
Que tu sois désolé. Non, mais c'est.
Mais non, mais Robert, écoutez, excusez-moi. Parce que moi, je dis facilement, excusez-moi. Mais c'est tellement un mot magique.
C'est vrai.
Alors, franchement, vous ne manipulez absolument pas, vous, Robert Zuilly. Regardez-moi droit dans les yeux et dites-moi.
Non, que j'influence, c'est possible, mais la manipulation pour moi est quelque chose qui rompt la liberté de l'autre, donc je suis extrêmement attentif à ne pas manipuler. Peut-être que je le fais sans m'en rendre compte, mais on me le dirait.
Non, mais je pense que la manipulation, elle est inhérente à la nature humaine. Ce qui ne veut pas dire qu'on manipule pour nuire à l'autre. Mais on manipule tout simplement parce que c'est comme ça qu'on va arriver à aplanir un...
Alors, il faut se mettre d'accord sur la définition de ces mots-là, et c'est important que dans un couple, on puisse en discuter.
Oh là là, mais vous savez comment il me regarde, Marie, je n'ose plus rien dire.
Est-ce que je peux rajouter quelque chose ?
Mais surtout, ce que je vous disais
surtout,
tout à l'heure.
Venez à mon secours, Marie.
Non, je ne vais pas venir à votre secours, mais j'étais en train de penser à autre
chose.
En fait, quand je vous ai posé la question, je me demandais si c'était préjudiciable ou pas. Je pense que aussi, ce petit travail que j'ai fait sur moi, ça m'a quand même apaisé aussi un peu moi, parce que j'avais beaucoup, beaucoup de contrariétés. Parce qu'en fait, c'est un homme adorable, mais qui est négligent sur pas mal de points. Et moi, je suis quelqu'un de très carré. Donc, évidemment, c'est compliqué au quotidien. Non, je suis pas enquiquineuse, mais je suis...
un peu perfectionniste.
Non, mais je reçois une amende, je la paie tout de suite.
Vous procrastinez pas.
Voilà. Alors que lui procrastine, c'est exactement ça. Vous m'avez comprise, je suis trop contente. Et donc voilà. Et donc je pense que ça m'a fait quand même du bien de revenir un petit peu là-dessus, de baisser mes exigences.
Oui, bien sûr, d'accepter l'autre avec
ça aussi. Parce que moi je peux pas faire, parce que je peux rien faire en fait. J'ai pas de prise sur lui. s'il veut pas payer son amende ou s'il veut pas aller chercher son recommandé, j'ai pas de prise là-dessus en fait. C'est son problème, c'est pas le mien.
Absolument. Ça c'est aussi quelque chose de très féminin, d'essayer quand même de materner l'autre.
Oui.
Après tout, tant pis pour lui, il payera pas son amende, il payera l'amende encore plus cher parce qu'il aura laissé dépasser la date. C'est vrai que c'est bien d'avoir appris aussi à lâcher un petit peu du laisse, parce que c'est ça aussi qui est important dans un couple, c'est de laisser la personnalité de l'autre telle qu'elle est, même si c'est pas comme ça qu'on aimerait qu'il soit.
Ouais. Ouais, bien sûr.
Ce sujet de la procrastination, c'est un vrai risque dans un couple.
Aussi, mais je crois qu'on va avoir beaucoup de choses à dire sur la difficulté de communiquer justement sur ses émotions. En tout cas, merci beaucoup Marie d'être intervenue sur Sud Radio.
Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.
Merci. On va faire une petite pause et on retrouve Julia Palombe, notre sexy news, comme tous les jeudis.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant sexy news.
Bon, alors, je ne sais pas, mais elle me dit qu'elle s'est baladée dans la rue comme ça, Julia Palombe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Robert, Julie, mais depuis qu'elle est rentrée dans la radio, depuis qu'elle est rentrée dans Sud Radio, tous les hommes sont plus tout à fait normaux. Enfin, voilà, donc je ne sais pas.
On se demande s'ils ont perdu la faculté de penser.
Voilà, mais ça... Enfin, moi, sincèrement, Julia Palombe, je vous félicite parce que vous baladez comme ça dans la rue avec cette robe qui ressemble plus à un petit haut qu'à une robe, hein, parce que
oui,
ça s'arrête.
Un petit haut moulant.
Ça s'arrête à la foufoune, hein, osons le dire.
Râle bonbon, on dit.
Le décolleté, je ne sais même pas si on peut parler ça d'un décolleté. Hein,
Non, c'est pour ça que c'est très bien que je sois, qu'elle soit à côté de moi. Comme ça, elle n'est pas dans mon champ de vision et je peux rester attentif
voilà,
à ce qui se dit.
Donc, il y a 1 mètre carré de tissu à peine, hein.
Je ne suis pas très grande.
Mais ça doit coûter plus cher au mètre carré. Ce
c'est très écolo, en tout cas.
Oui, je suis sexy écolo. Le chauffeur
cas,
de taxi.
Vous êtes oui, alors le chauffeur
c'est
de taxi.
C'est très gentil, Brigitte. Le chauffeur de taxi m'a dit, je suis rentrée, je lui ai demandé, vous pouvez m'amener à Sud Radio. Il m'a dit, oui, vous êtes inévitable.
N'est-ce pas?
Alors voilà le compliment du jour.
N'est-ce pas?
Je ne sais pas si j'ai touché ces émotions.
Vous êtes superbe, magnifique et bravo, parce qu'il faut oser en 2022 se promener
assumer
comme ça.
Assumer sa féminité, c'est vrai.
Bon, et vous allez nous parler du boulevard des émotions.
Oui, c'est vous qui m'embarquez dans le boulevard des émotions aujourd'hui. C'est ma première chronique de la saison et je suis ravie qu'on plonge au cœur du cœur, on pourrait dire, dans les racines de la pensée. Car oui, sans émotion, il n'y aurait pas de pensée, sans mots pour traduire nos sentiments. L'esprit ne pourrait pas éclore, telle la fleur timide qui s'ouvre délicatement au printemps sous les rayons du soleil ravageur. Oui, mais voilà, comme l'écrit Christophe Clavé, la disparition progressive des temps donne lieu à une pensée contemporaine au présent, limitée à l'instant, incapable de projection dans le temps. Autrement dit, notre époque qui renonce aux subtilités et à l'esthétique de notre précieuse langue française réduit considérablement notre capacité à exprimer nos émotions. Et pourtant, nous aurions tant besoin, on le voit aujourd'hui depuis le début de l'émission, nous aurions tant besoin de cette aptitude à dire, à décrire, à analyser, à construire un raisonnement pour mieux nous comprendre, expliquer nos émotions. Car oui, la pensée complexe, si chère à Edgar Morin, c'est sexy. L'intelligence, c'est sexy, Brigitte, non ? Brigitte attend que je développe, elle a raison.
Oui, mais alors... l'intelligence sexy, je ne sais pas, j'attends.
Il y a un
si
terme,
on a 69 de QI,
il y a un terme pour ça quand on est excité par l'intelligence de l'autre, n'est-ce pas ? Je me souviens plus du terme, moi, mais Brigitte, je suis sûre que vous le connaissez.
Pas du tout, non.
Ok, je le chercherai pour la fois prochaine.
Vous connaissez le terme
Je ne me souviens plus. Sapiosexuel.
Ah oui,
sapiosexuel.
Oui, c'est ça.
Voilà en quoi l'intelligence peut être sexy. Je me sens sexy tout à coup. Oui, mais alors, au lieu de voir fleurir des bataillons de jeunes gens prêts à en découdre, discutant entre eux en alexandrin ou en quatrain, J'ai un faible pour les plans A4. Nous assistons péniblement à des envolées idiotes venant toujours des bords les plus extrêmes, nous infligeant de nouvelles injonctions, toutes aussi stériles que les précédentes, hein, du genre « tu pleureras mon fils ». Alors celle-là, j'avoue qu'elle me débecte. En 2022, les mamans se croyant subversives offrent des t-shirts à leurs fils où l'on peut lire « boys cry », comprendre « les mecs pleurent ». Je n'ai rien contre les gars qui ont l'éjaculation lacrymale facile, mais non d'une pipe, vous y comprenez quelque chose, vous, quand une femme pleure, eh bien c'est pareil. Quand un homme chiale, ça soulage, certes, mais c'est tout. Et en matière d'expression émotionnelle, je nous crois capables, hommes et femmes, d'aller bien plus loin, non ? J'entends les réticences.
Je ne crois pas que ça excite une femme, un homme qui pleure.
Moi, ça ne m'excite pas du tout, mais ça dépend certainement des femmes. Il y en a qui doivent être excitées.
Oui, forcément,
oh oui, mon chéri, viens là que je te console.
Il y a de tout. Mais...
En tout cas, j'entends les réticences de certains à l'égard de l'exigeant langage des mots. C'est vrai, il y en a tout souvent qui me disent d'ailleurs, oui, bah, c'est facile quand on a la facilité de s'exprimer, quand on détient le vocabulaire approprié. Mais il y en a pour qui c'est difficile de s'exprimer avec les mots. Je vous entends bien, mais alors, nous avons notre corps. Que diable attendez-vous pour étudier le langage du corps ? Permettez-moi de vous suggérer l'étude des arts, la musique, la peinture, la danse, non pas leur pareil, pour exprimer les émotions les plus profondes. Et puis, puisque l'on parle de profondeur et qu'on est sur Sud Radio avec Brigitte Lahaie, lancez-vous, osez étudier le langage érotique, propice à l'expression de votre moi interne. Vous verrez que vous aurez tout un tas de nouveaux outils à votre disposition pour avancer sur le chemin de l'expression de vos émotions, libérant ponctuellement vos tensions. Bah, c'est pas pour rien qu'on retrouve d'ailleurs ce langage érotique dans les intermèdes théâtraux du 15e siècle. Hein. Le langage érotique a une fonction cathartique. Cathartique, c'est comme ça qu'on dit. Ne me dites pas que vous reculez devant l'effort, chers auditeurs. En cette rentrée, je veux qu'une chose soit claire entre vous et moi. C'est dans l'effort que se cache notre liberté chérie. Alors, remontez les manches, transpirez un bon coup et à vous le boulevard des émotions.
Bien. Robert Zully, vous qui êtes spécialiste des émotions, qu'est-ce que vous dites de tout ça ?
Y a une palette d'émotions avec des champs d'expression qui sont effectivement variables. C'est-à-dire qu'on peut mettre des mots pour parler de ce qu'on ressent, et puis bien souvent le corps doit être un langage aussi dans notre manière d'exprimer ce qu'on ressent. Et le langage du corps, qui peut être érotique, a un pouvoir très fort de réunion des couples. Donc ce sont aussi des mots dont il ne faut pas se priver, parce que sinon ça crée d'autres mots, mais qui sont plus désagréables. Donc merci Julia, moi j'adore à chaque fois, et puis vous me faites sourire. Et j'avais envie de vous prendre en photo quand vous étiez en train de parler, pour montrer à ma femme que c'était bien vrai ce que Brigitte disait tout à l'heure.
Le langage du corps, n'est-ce pas ?
N'est-ce pas ? Voilà, donc le vert étant la couleur de l'espoir. Hein. cela étant dit, ça c'est quand même une nouvelle très importante. Si vous aimez bien Julia Palombe et ses excès, n'hésitez pas, elle sera sur scène à Paris, c'est mardi prochain, hein, pas, je crois. Hein,
mardi 13
Mardi
dans
d'après.
Deux semaines,
non, dans, pardon, dans, pas la semaine prochaine, mais dans la semaine. De, bon, bref, le 13 septembre, c'est un mardi. 2022, absolument. Oui. C'est à 20h, c'est au théâtre Montmartre-Galabru, toujours pour votre spectacle, le Postpartum Show. Alors, c'est juste une soirée à Paris
Oui, c'est une date exceptionnelle à Paris, puisque c'est en cette rentrée.
Il faut vraiment en profiter parce que.
Ah oui, dépêchez-vous, il y a encore des places qui sont en réservation sur le site du théâtre. Être Galabru, et on va bien se marrer à décortiquer la sacro-sainte figure maternelle.
N'est-ce pas ? On vous fait confiance là-dessus. Voilà, et bien tout de suite c'est Olivia qui est avec nous pour répondre aux questions intimes. Bonjour Olivia.
Bonjour Brigitte, bonjour Robert.
Bonjour Olivia.
Et bien, première question, quelle serait votre émotion dominante, Olivia ?
Aujourd'hui, là maintenant, un peu d'anxiété. Je dirais.
D'accord. Là, à l'instant, vous êtes un peu anxieuse.
C'est pas
tout à fait une émotion, si.
C'est un sentiment.
Un sentiment.
C'est un sentiment. L'anxiété est un sentiment qui peut nous mettre dans un état anxieux et qui est à corréler à la peur. Seule la peur peut générer un sentiment d'anxiété. Et il faut souvent expliquer que c'est pas grave d'avoir peur. Hein, c'est normal. Toutes nos émotions sont utiles.
D'accord.
Et ça va très bien se passer parce qu'on est ravis de vous écouter.
Ben ouais, moi aussi.
C'est un peu de stress alors. Il y a un peu de stress aussi ?
Un petit peu, ouais, mais très contente d'être avec vous en tout cas. Ça me fait plaisir.
Alors, deuxième question, quel serait pour vous l'essentiel dans une relation ?
Moi, je dirais la communication. Mais oui. Je pense que c'est très important. Ouais. Et ça entraîne plein de choses après, positives derrière, en fait.
C'est sûr que si on arrive à bien communiquer, on règle quand même beaucoup de choses, alors qu'autrement, bah, ça crée des petits...
Des tensions,
etc. Oui, oui,
ouais, exactement. Ouais, je trouve ça très important. Pas évident pour tout le monde, mais...
Ben, vous savez,
c'est apprendre à communiquer.
Il faut être deux pour communiquer. S'il y en a un qui sait communiquer et pas l'autre, ben, de toute façon, ça ira pas très loin. Hein.
Oui, c'est un monologue.
Exactement. Exactement.
Et alors, dernière question. Est-ce que vous seriez assez adepte de la fessée, des menottes, enfin du SM soft ou pas du tout?
Alors, j'ai pas tout fait, tout ce que vous avez énoncé, mais pourquoi
peu,
pas
un petit peu,
un petit peu, voilà, un petit peu quand même. Donc pas contre quand on a le bon partenaire et qu'on est en confiance.
Un petit peu d'excitation comme ça dans des choses. D'accord.
Je pense que moi avec la complicité, la personne, je pense qu'on peut explorer des nouvelles expériences que je ferais pas avec le premier venu comme ça.
Oui, très bien. Voilà,
quelqu'un de rencontré pas longtemps.
Eh bien, à vous de poser une question à Robert Zulli, il vous écoute.
Oui, alors moi justement, c'était comment on peut gérer ses peurs dans un couple quand on a l'impression, par exemple, que son compagnon est moins attentionné, sans que ça détruise ou que ça mette des portes à faux la relation, justement.
Oui, quand l'autre est moins attentionné, et d'autant plus quand on est une femme, par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, on se pose des questions, on a besoin de mettre du sens. Le risque quand on met du sens, c'est qu'en fonction de ses propres peurs à soi, on ne fait qu'une seule hypothèse. Et on se dit, ben, peut-être qu'il m'aime moins, ou peut-être qu'il a rencontré quelqu'un. Et là, je viens de faire deux hypothèses. Mais c'est rare qu'on... Et c'est pour ça que, avant de dire pourquoi c'est rare, c'est pour ça que j'invite, qu'on soit un homme ou une femme, quand on doute de quelque chose, de faire trois hypothèses. Parce que ça nous oblige à aller chercher quelque chose qui va au-delà de ce qui nous concerne, nous, et qui peut être... et qui peut correspondre à ce qu'a l'autre. Par exemple, je vous disais, bah, il a un peu moins d'attention, on peut se dire, tiens, est-ce qu'il m'aime moins, ou est-ce qu'il a rencontré quelqu'un? Mais on peut se dire, peut-être qu'il
a
aussi
des soucis au travail.
Exactement. Oui. Peut-être qu'il y a quelque chose qui le concerne. Et à ce moment-là, moi, je vous invite à formuler ces hypothèses à l'autre et à les formuler au conditionnel.
D'accord.
Pour éviter que ce soit entendu comme un reproche. Parce que quand on exprime ses ressentis au présent, si je vous dis « je suis déçu », vous allez le prendre comme un reproche. Si je vous dis « je pourrais être déçu », ça n'a pas la même tonalité. Même si on dit la même chose. Et donc, ça serait de formuler au conditionnel ces interrogations que vous avez en disant, ben voilà, j'ai remarqué ça, mais c'est mon ressenti. Et ça pourrait me laisser craindre que peut-être il y a moins d'amour, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, ou peut-être qu'il y a autre chose qui te concerne et dont on n'aurait pas parlé. Et qu'est-ce que t'en penses ? Voilà, et vous laissez répondre.
D'accord, ok.
Voilà, la réponse de Robert Zulli.
Parfait. Merci. Oui, parce que des fois, ce n'est pas forcément une vérité, mais on peut avoir l'impression, en fait, juste une impression qui n'est pas du tout fondée, mais que la personne est moins, sur le moment, moins présente, parce que, enfin, voilà, pour des tas de raisons, et ça ramène, c'est pas forcément quelque chose d'acté sur le long terme, mais sur un moment passé.
Oui, ça peut être tout simplement un ressenti que vous avez qui est totalement faux.
Qui n'est pas fondé,
Qui est juste parce que vous avez changé de coiffure et que vous pensiez qu'il allait s'en rendre compte, parce que ça paraît évident pour tout le monde, et puis il ne s'en rend pas compte, et donc vous imaginez qu'il est moins attentionné ou attentif, mais en fait c'est juste parce que ce n'est pas quelque chose qui pour lui est remarquable.
C'est ça.
Et ça part comme ça.
Mais vraiment, j'insiste sur le fait de formuler son ressenti au conditionnel, parce que ça préserve et ça rend entendable ce que vous avez envie de dire de vous.
On revient sur la communication.
Bien sûr, et vous avez totalement raison, Robert Zulli, sauf que le vrai problème, et c'est toute la difficulté des émotions, c'est que, surtout pour nous les femmes, nos émotions, elles sont tellement présentes que c'est l'instant présent, et donc on utilise le présent, quoi.
Oui,
mais vous avez raison, bien sûr qu'il faudrait...
Mais là, je parle d'un protocole de communication utile, vertueux, qui, depuis que je l'utilise, et ça fait plus d'une dizaine d'années, il permet aux gens d'obtenir des résultats extrêmement précieux dans la préservation de la communication. Donc, ça demande un effort, c'est pas naturel, Mais quand on le teste et quand on éprouve ce que ça produit, ça peut changer notre vie. Donc vraiment, vraiment, c'est un effort à faire. Mais paradoxalement, c'est plus dur pour les hommes que pour les femmes, bien souvent.
Parce que comme les
hommes,
le conditionnel,
parce que comme les hommes sont
dans
le réel, ben, le réel c'est le présent. Alors que la symbolique des femmes, c'est souvent le conditionnel parce qu'elles disent si, tiens si, il se passait ça, très facilement. Alors que l'homme, lui, le conditionnel, le si, non, c'est ça. Et on tergiverse pas.
Moi j'aimais bien si, donc ça devrait aller. Merci Olivia en tout cas, merci beaucoup. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant avec un homme justement aussi, qui va parler de ses émotions.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Avec Robert Zwilly, nous évoquons les émotions côté féminin, côté masculin. Et je l'ai dit en introduction, les hommes aussi ont des émotions. Et il n'est pas question de nier la sensibilité des hommes. Ce n'était pas du tout le propos de cette émission aujourd'hui. Mais évidemment, on ne réagit pas de la même manière. Et c'est bien parce que c'est Paul qui est avec nous et qui va pouvoir évoquer ses émotions. Bonjour Paul.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Robert.
Bonjour.
Comme vous, j'aime bien Brigitte Tissi, ça c'est pour la plaisanterie. par contre, justement, je vais un peu témoigner, et j'ai une question à la fin, sur le fait que dans mon couple, c'est juste l'inverse, c'est plutôt moi qui exprime des émotions, et ma compagne qui est dans le réel, dans le présent, et qui est assez directe. C'est juste l'inverse de ce qui a été dit juste avant.
Oui, bien sûr, ça existe.
Pas si, voilà, ça existe.
Oui,
voilà.
C'est statistiquement plus rare. On va dire que ça représente 30%, 35% des situations qu'on rencontre, puisque j'ai développé un outil qui permet de mesurer justement la proportion de ce réel, de cet imaginaire et de cette symbolique chez chacun d'entre nous. Et donc les proportions sont bien plus souvent développées dans le réel chez les hommes que chez les femmes, mais bien sûr l'inverse est vrai. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs que il y a un élément de corrélation. C'est le niveau d'études. Bizarrement, les gens qui font beaucoup d'études ont un niveau de symbolique supérieur à la moyenne. C'est comme si le fait de développer sa connaissance et son savoir nous aidait à revisiter nos croyances et à remettre en cause nos représentations du monde et donc nos émotions. Donc, oui, ce que vous dites, ça arrive.
Je témoigne doublement. Premièrement, je vous crois dans vos statistiques, là, et j'y crois, je suis ingénieur.
Oui.
Et en même temps, quand on est dans les 30%, eh ben, c'est 100%, quoi.
C'est une minorité, c'est 100%. Bien sûr.
Par contre, votre remarque, j'avais jamais fait ce constat, je vous en remercie. Et c'est peut-être ce qui explique ça dans notre couple, d'ailleurs. Effectivement, j'ai fait pas mal, je me pose beaucoup de questions, je lis beaucoup de livres, je participe à beaucoup de stages, je suis très curieux. Et en symbolique, je me remets beaucoup en cause. Peut-être également parce que depuis 2 ans, je suis en vacances puis à la retraite, et une nouvelle vie, et je m'interroge. J'ai d'ailleurs beaucoup écrit pour dire qu'est-ce qui s'est passé avant. J'ai divorcé, qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé ça. Voilà. Mmh. Et alors que ma compagne est plus jeune et encore dans le boulot, dans le réel. Et ça explique peut-être, enfin, ce que votre explication est peut-être valable pour nous aussi, quoi.
C'est possible.
Oui, et puis après, il y a le vécu, l'expérience de chacun. Peut-être que votre compagne, elle n'a pas été spécialement écoutée dans son enfance, et donc elle s'est un petit peu enfermée, parce qu'il faut aussi comprendre qu'il y a notre personnalité, si je puis dire, d'origine, et puis après, il y a nos expériences, l'éducation, etc. Et puis il y a des cultures aussi où on est plus à même de... Par exemple, il y a des cultures où on va exprimer facilement ses émotions en public, et puis il y a des cultures comme par exemple au Japon où on ne montre pas ses émotions.
C'est l'autre corrélation que j'ai pu faire, c'est que très souvent, les personnes qui sont capables d'exploiter le registre symbolique, on grandit dans des familles où ils ont facilement entendu « je t'aime », où ils ont facilement entendu des compliments qui n'ont pas de valeur intrinsèque. C'est pas parce qu'on dit à quelqu'un « je t'aime » que c'est forcément vrai, ou c'est pas parce qu'on dit à quelqu'un « je suis fier de toi » que cette personne est extraordinaire. Mais ça remplit quelque chose, ça ouvre une fonction qui est intéressante, alors que des personnes qui sont dans le réel, bien souvent la corrélation, c'est qu'elles ont grandi dans des familles où quand par exemple elles avaient 14 à l'école, on leur disait... Qu'elles étaient contentes au départ, on leur disait « oui, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu 16 ?» Donc, tu aurais pu avoir 16. Et voyez, ça crée cette dichotomie. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une fatalité. Et vous semblez peut-être l'exprimer quand vous dites que vous, aujourd'hui, vous avez entamé une autre démarche et vous avez une autre approche où vous remettez en question, vous êtes très curieux et vous avez ouvert cette dimension symbolique. Et on peut le faire à n'importe quel âge. C'est ça qui est précieux.
Je confirme.
Oui.
J'y crois et c'est ce que je vis. Alors, j'ai quand même un peu précisé notre couple. Je voudrais pas enfermer ma compagne dans quelqu'un de fermé. C'est pas le cas. Et plus, elle l'exprime différemment de moi. Alors, je vais vous donner quelques exemples sur quatre émotions. La peur, la joie et la tristesse que je rapprocherai et la colère. On a fait une rencontre il y a un an. C'est totalement le hasard. Et on est tombé fou amoureux alors qu'aucun des deux ne draguait. On était tous les deux seuls. Moi, je sortais d'un divorce. Elle était seule. On se rencontre et comme une évidence. On a vécu ça merveilleusement. Alors, il n'y a pas eu de colère au début. Après, on a appris à se connaître. Et puis, quand on s'est connus et qu'on vient de milieux totalement différents, là, plutôt intuitif, je suis plutôt cartésien, il y a eu les premiers, je dirais, frottements, mais frottements au sens positif, au sens alchimique. Hein.
Oui.
Et là, il y a eu quelques expressions et parfois une colère, mais qui, de mon côté, j'ai senti ça devait venir de quelque chose de plus profond. Si je peux me permettre, c'est même l'inconscient. Et donc, je suis en train de faire un petit peu d'autres exercices pour essayer de voir cette
inconscient. Et c'est vous qui ressentiez de la colère plus qu'elle ?
Elle. C'est moi et elle. Disons que moi, je l'exprimais plus facilement.
D'accord.
Elle aussi, elle le retenait, et quand elle l'exprimait, ça explosait. Alors que moi, je l'exprimais plus un peu en réaction, ce qui n'est pas forcément bon. C'est-à-dire qu'il y a une émotion qui vient et je la laisse sortir. Je suis quelqu'un de... dans votre dernière émission, Brigitte, vous avez fait des ultra-sensibles, qui est ultra-sensible. Donc, je ressens très vite, très fort. Maintenant, en un an et que je travaille beaucoup, j'essaie de ressentir l'émotion et avant d'exprimer quelque chose, de la ressentir dans mon corps, moi. Laisser tomber, de voir après d'où est-ce que ça vient. Et ensuite, j'exprime quelque chose qui est entendable par l'autre.
Oui. Mais vous avez le privilège de l'âge, vous êtes devenu un peu plus sage, si je puis dire.
Oui,
elle semble plus jeune que vous. Et il y a certainement encore des choses qui sont très, très brutes chez elle et qu'elle n'a pas encore réussi à dépasser. Ah. Hein.
Alors, sur la joie et la tristesse, là, je m'exprime plus. Parce que je l'exprime facilement et elle, c'est plus retenu. Et donc parfois, je trouve dommage qu'elle ne m'exprime pas. Et enfin, sur les peurs, j'ose maintenant exprimer une peur, et j'ai la chance qu'elle ait accueilli en face. Par contre, elle ne me l'exprime pas, parce que je ne sais pas, elle a encore peur de l'exprimer. Et donc ma question, c'est un peu comment justement engager la communication pour qu'elle exprime un peu plus ses émotions qu'elle ressent. Et maintenant, je le perçois, des peurs au début, elle était très sûre d'elle, elle a un super métier, reconnue par tout le monde. Et je vois quand même qu'il y a des petites choses qui vibrent, mais ça ne sort pas. Quoi.
Oui, bah, il faut l'apprivoiser, hein, Paul. Visiblement, c'est un animal un peu blessé, qui s'est un peu fermé, et donc il faut l'apprivoiser. Moi, je pense que beaucoup de tendresse et de langage du corps peut l'aider aussi à parler.
Alors, elle, son idéal, c'est on communique sans rien se dire. Il suffit qu'on se regarde, on doit être complice et tout va bien.
C'est difficile pour elle d'exprimer visiblement ce qu'elle ressent.
Mais parfois, elle projette des choses sur moi ou sur les autres. C'est pas ça du tout. Donc je dis, il faut parfois utiliser un mot quand même.
Bien sûr. C'est peut-être, Paul, qu'une des solutions, c'est de lui dire que... si on n'exprime pas quelque chose, c'est que potentiellement ça peut constituer une menace. Et il faut qu'elle se questionne sur la menace qu'il y a derrière. Quel risque elle prendrait à communiquer ses émotions. Et si elle le fait avec quelqu'un comme vous, qui a priori l'aimait, qui ne la jugeait pas et qui est bienveillant, et que vous lui expliquez ça, elle ne se sentira pas en danger et peut-être qu'elle acceptera de communiquer ces choses-là. Et elle verra, elle éprouvera que ça ne la met pas en situation difficile.
Et puis, ce que vous pouvez faire de temps en temps, c'est un petit jeu avec, vous connaissez très bien les quatre émotions, puisque vous en avez parlé, Paul. Vous faites quatre colonnes, et puis de temps en temps, vous la prenez dans vos bras, et puis vous lui dites, tiens, aujourd'hui, quelle serait l'émotion qui a été la plus difficile pour toi? Et elle va vous donner une note sur une des quatre colonnes. Et puis après, vous lui dites, ah oui, et pourquoi? Et vous lui faites raconter, vous voyez, mais sous forme de jeu. Comme ça, ça ne la met pas trop face à sa difficulté à exprimer ses émotions. Vous en faites un jeu. Et ça peut vraiment aider à ce qu'elle vous fasse confiance. Parce qu'en fait, c'est un problème de confiance pour l'instant. Elle ne fait pas confiance à l'autre. Parce que sans doute qu'il y a des blessures, évidemment. Et on va continuer évidemment à parler des émotions dans la deuxième heure, à la petite devinette. Alors, ça me fait rire, hein, parce que il n'y a qu'une femme qui peut la proposer, cette devinette. Ah, comment bon un homme peut aider une femme à passer l'aspirateur dans le salon, Robert Zulli? Vous me donnez la réponse après les infos.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Les émotions, eh oui, on pourrait en parler pendant des heures, et ça tombe bien puisque nous sommes avec Robert Zulli, notre docteur en émotions, qui pourra mieux que quiconque décoder vos émotions. Vous êtes psychologue clinicien, vous êtes également coach en entreprise, et vous avez beaucoup écrit sur les émotions. Et vous nous rappelez souvent d'ailleurs, hein, à quel point il faut comprendre les émotions de nos enfants. Ce sera peut-être un prochain sujet d'émission quand vous reviendrez nous voir. Alors, avant de donner la parole à Stéphanie, on va voir la réponse à la devinette. Comment un homme peut aider sa femme à passer l'aspirateur dans le salon?
La seule idée qui me vient, c'est en lui donnant le bon tuyau.
Mais non, en levant les jambes, tout simplement.
D'accord.
Il suffit qu'il lève les jambes quand elle passe le salon, quand elle passe l'aspirateur devant le canapé. Voilà.
Vous allez faire sourire les féministes, là.
Mais j'adore faire sourire les féministes. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Brigitte, bonjour docteur.
Bonjour Robert, et je ne suis pas docteur.
Vous savez qu'on a le droit d'être docteur en je ne sais quoi.
Hein. Ah oui, mais je n'ai pas le titre.
Médecin.
Je n'ai pas le titre de médecin.
Vous n'êtes pas médecin.
Non, voilà. Non, je suis psychologue clinicien et pas médecin. Ou psychiatre, non plus. Mais, bonjour donc, Stéphanie, donc.
Eh bien, bonjour et enchantée.
Eh bien, vous avez l'air d'avoir une voix bien joyeuse, Stéphanie.
Tout à fait.
Eh bien, c'est sympa.
Des émotions joyeuses aujourd'hui.
Ben écoutez, c'est bien de nous en faire profiter. Mais encore.
Alors moi, je pense que le sujet, c'était les émotions sont-ils identiques chez l'homme et la femme, hein. Je pense que c'était ça le sujet de l'émission.
Oui, mais on affirme que non. Hein.
Oui, exactement. C'était mes propos. Et je pense qu'on est différents déjà. Au départ, que ce soit dans le langage ou dans les émotions. Et moi, pour ma part, j'ai dépeint deux émotions, la joie et la colère. Alors, ce n'est pas exactement la colère, ça serait plutôt le fait de ne pas être joyeuse, en fait. Peut-être pas triste, mais voilà. Donc, je passe par ces deux émotions... Je vais dire en permanence.
Et comment vous réagissez alors quand vous êtes dans ce que vous exprimez comme étant soit peut-être de la colère ou pas tout à fait de la tristesse? Ça se traduit par quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer?
Vous êtes un peu fermé peut-être, hein?
Oui, voilà. Bon, déjà,
c'est quoi
oui
qui le déclenche?
Je vais dire l'observation que j'ai face à certains événements autour de moi. Comportement de certaines personnes, plutôt les choses extérieures.
Donc vous êtes un peu éponge quand même, vous vous laissez un petit peu abîmer, si je puis dire, hein, parce que c'est dommage de perdre la joie, vous vous laissez un petit peu abîmer par des choses qui sont pas faciles, difficiles, par exemple les médias, si vous écoutez un peu trop les médias, ça vous...
Pas trop les médias, ça va être, je sais pas, ça va...
Des
ça
personnes va... qui sont un peu défaitistes autour de vous
ou... Voilà, c'est ça, et puis la condition animale, enfin plein de choses qui me...
Parce que dans ce que vous dites, ça respecte un des mécanismes que j'ai appelé la loi de la hiérarchie émotionnelle qui dit que quand on a une colère ou une peur qu'on ne sait pas réguler, elle se transforme en tristesse. Et ce que j'entends de vous, a priori, c'est que peut-être au départ, il y a de la colère, et comme vous n'avez pas de moyen de réguler cette colère parce qu'il n'y a pas de solution, ça nous attriste un peu. Mais ça pose la question de ce que vous ne trouvez pas normal si c'est la colère. Si c'est la colère, ça veut dire qu'il y a des choses que vous observez et que vous vous dites, bah tiens, c'est pas normal, c'est pas juste, ça devrait pas se passer comme ça, on devrait pas faire ça. Mais vous avez pas la solution, et donc, ben comme cette colère ne trouve pas de terrain de régulation, ça se transforme en déception. C'est ça la mécanique que vous vivez ?
Oui, c'est ça. C'est tout à fait
par rapport
ça.
Justement, à la, vous avez parlé de la condition animale, hein, par exemple.
Oui,
c'est injuste.
Par exemple.
C'est injuste.
Ah, mais moi, quelque part, voilà, encore une émotion, c'est de la révolte et face à la détresse, finalement, de l'animal, hein, en soi, ben, voilà, ça me fait de la peine, quoi.
Mais oui, voilà. Mais c'est exactement ça. Mais vous savez qu'on n'a pas tous, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas défendre la cause animale ou qui ne vont pas être sensibles aux mêmes choses que vous. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à relier à quelque chose de votre histoire, à vous, probablement. C'est dans quel état de détresse vous vous êtes trouvé, vous, un moment dans votre vie pour lequel vous n'avez pas eu d'issue ou de recours ou d'aide de la part de vos proches. Est-ce que ça fait écho à quelque chose ?
Oui, quelque chose qui s'est passé il y a 2 ans, oui. D'ailleurs, j'étais intervenue sur l'antenne suite à une séparation qui m'a beaucoup marquée.
Donc c'est votre compagnon qui vous a quitté, c'est ça ?
Oui.
Sans savoir pourquoi, peut-être.
J'ai découvert pourquoi. Et je trouvais ça tellement pas injuste. Après aujourd'hui, ouais, voilà. Aujourd'hui, avec le recul.
Mais vous vous êtes senti trahi, en fait.
Ah, mais complètement. Mais encore aujourd'hui. Hein.
Oui.
Et quel rapport vous faites avec la cause animale ?
Je ne sais pas. J'aimerais faire des choses positives. J'aimerais que les humains, en général, changent. Parce que c'est vrai, on a dit le Covid, on est tous solidaires.
Stéphanie, avant de vous dire ce que je voulais vous dire, je vais préciser que vous savez que j'adore les animaux. Hein.
Oui.
Donc ce que je vais vous dire n'est pas du tout une attaque personnelle pour vous. Mais plus la cause animale que la maltraitance des enfants, ça vous touche plus ?
Eh bien, si je suis franche, oui.
C'est intéressant hein, d'essayer.
Vous avez des enfants ?
Oui, j'en ai 3 grands et 3 petits-filles et bientôt une quatrième. Oui. Mais après, je veux dire, j'ai un rapport différent. Je veux dire, j'ai un rapport différent face à l'enfant. J'estime que les animaux, par exemple, ils sont sans défense. Enfin, un enfant aussi, quand il est tout petit, il est sans défense. Mais je veux dire, on est humain, on raisonne.
Mais
on est
je crois, Stéphanie, que ce serait vraiment intéressant, parce que ça parle évidemment de vous, et bien sûr que je vous comprends tout à fait, que je dirais que je partage presque ce que vous dites. Donc vous voyez, on se reçoit à 5 sur 5, Stéphanie. Mais je crois que ça veut dire quelque chose d'important, et je vais vous dire ce que je crois, et vous me direz si ça vous parle. Je crois que quelque part, vous êtes construite et que vous êtes quelqu'un finalement qui a une petite armure qui lui permet de bien tenir et que du coup vous ne vous sentez pas totalement sans défense. Et c'est pour ça que vous avez plutôt envie de prendre la défense des animaux qui eux seraient sans défense.
C'est exactement ça.
Voyez, et c'est ça qui est important, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque part, dans la relation à l'autre, eh ben vous gardez quand même peut-être toujours le pont-levis un peu levé.
Et tout à fait ça.
Après, il y a un mot que vous avez dit qui doit faire sens pour vous, et qui est un repère sans doute important, c'est le mot détresse, tout à l'heure. Et c'est à quoi ça vous confronte cette détresse pour vous. Et probablement que dans cette histoire de couple dont vous avez parlé, vous avez dû ressentir cette détresse profonde, c'est-à-dire ne pas comprendre.
La détresse pour moi, c'est en fait, on est face à quelque chose dont on ne peut pas agir.
Oui.
on peut rien y faire, on est dépourvu.
Démuni totalement.
Oui, voilà.
On est comme les animaux sans défense.
Voilà le lien.
Exactement, c'est une décision qui appartient à l'autre, en parlant de la rupture.
Est-ce qu'on pourrait penser, imaginer même, Stéphanie, que justement dans cette relation qui s'est terminée il y a 2 ans, vous aviez un peu trop baissé le pont-levis?
Ah mais complètement.
Eh ben voilà.
Ah mais complètement.
Voilà. Et donc, encore une fois, ça parle de vous, bien sûr, mais il faut peut-être comprendre que celui qui vous a permis de baisser le pont-levis, bah, vous a peut-être un peu trop manipulé. Et au fond, vous avez fait confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas.
Ah oui, à 100 000%, je dis tout le temps, 100 000% de confiance. Et encore aujourd'hui, bon, après, c'est un travail, je pense, sur soi-même. Moi, je lui ai pardonné. D'ailleurs, j'étais intervenue dans notre émission de ce fait-là que finalement, je lui pardonnais. Et quelque part, peut-être même, je pouvais comprendre. Je pouvais comprendre qu'on n'ait plus de sentiments, ou qu'on parte voir ailleurs, ou peu importe, tout un tas de choses. Mais encore aujourd'hui, quand même, quand je réfléchis sur notre histoire et moi, la façon dont
Stéphanie, c'est important que vous entendiez ce que j'ai à vous dire. Pardonnez-vous de ne pas vous être rendu compte qu'il ne vous méritait pas, mais vous n'avez pas à lui pardonner de vous avoir fait le mal qu'il vous a fait.
Oh, mais j'arrive pas à me pardonner.
Ben, c'est pourtant la seule chose qui est importante. Ne pas lui pardonner, alors franchement, vous avez tout à fait le droit. Vous avez même le droit de le détester, vous avez même le droit de lui souhaiter.
Vous avez surtout le droit de le faire à un moment donné.
Mais en revanche, il faut que Stéphanie arrive à se pardonner.
Bien sûr, bien sûr.
Je m'en veux. Hein.
Mais j'entends bien.
Oui, oui. Mais
je me dis qu'est-ce que... Non, je peux pas dire que j'étais sotte. Parce que dans ce moment-là, j'étais... Je déconduis par mon amour envers lui.
Vous étiez entière.
Oui, voilà.
Oui, mais c'est toujours une co-responsabilité ce qui se passe dans le couple. Et c'est ce qu'est en train de vous dire Brigitte, votre responsabilité à vous, aujourd'hui, c'est d'accepter peut-être d'avoir trop donné sans être prudente, ou en tout cas d'avoir vérifié que ça pouvait le faire. Mais aujourd'hui, votre responsabilité, c'est de ne pas vous sentir coupable de ça. Et de vous aimer tel que vous êtes. Et si lui n'a pas pu en profiter, ben peut-être que ce sera un cadeau pour un autre.
Parce que Stéphanie, c'est une grande qualité que de savoir donner, de s'ouvrir et s'abandonner à l'autre. C'est une grande force.
C'est une richesse phénoménale.
Donc,
je le pensais et je me dis...
Mais oui, mais qu'est-ce que vous diriez ?
Il n'a pas su voir.
Qu'est-ce que vous diriez à votre enfant qui échoue quelque part ? Vous lui diriez, ben arrête, oui, t'as raison, ça ne peut pas le faire ? Non, vous lui diriez continue.
Si échoue quelque part, ben, déjà je le cajolerai, enfin, je l'entourerai, je le rassurerai sur ses capacités, et puis on trouverait une solution.
Mais vous lui diriez de ne pas renoncer.
Parce que Stéphanie, l'important, ce n'est pas de tomber, c'est de savoir se relever.
Oui.
Et ben c'est pareil, en amour. Oui, mais donnez-vous ce temps-là et donc il faut d'abord vous pardonner parce que sinon vous n'arriverez pas à vous relever vraiment.
Et c'est pas parce qu'il vous a laissé tomber que vous ne saurez pas vous relever.
N'est-ce pas ? Jolie formule pour conclure. Merci Stéphanie en tout cas.
Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.
Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant avec Natacha qui va être avec nous dans un instant.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Robert Zully, notre docteur en émotions, est avec nous et nous décodons vos émotions. Et on voit ça demande vraiment un peu d'analyse pour comprendre finalement qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire, comment on s'arrange, si je puis dire, avec ces ressentis. Ouais,
ça veut dire qu'il faut accepter de se poser, d'arrêter un peu le temps. Et de libérer de la bande passante pour s'en préoccuper, s'y intéresser. Et ce n'est pas donné à chacun d'entre nous que d'accepter de le faire, parce que souvent le quotidien nous invite à avancer, à continuer, et à ne pas trop se poser de questions. Parce que quand on se pose des questions, c'est ça la difficulté de l'accueil des émotions, c'est quand on commence à se poser des questions, on ouvre des portes. Et derrière ces portes, il y a parfois des choses qui nous font douter, qui nous font nous demander si on fait les bonnes choses. Et c'est bien plus facile de ne pas se poser de questions, en fait. Donc, nos émotions nous confrontent à ça.
Oui, mais en même temps, si on continue à se laisser...
Emporté
par nos émotions, on finit peut-être de passer à côté de soi-même. Bonjour Natacha.
Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Je suis ravie de démarrer cette
rentrée. C'est Robert qui est avec nous, Natacha.
Pardon,
mais
c'est
pas
grave.
Vous en faites pas.
Robert, pardon.
C'est pas grave.
Michel, c'est sympa aussi.
Je trouve aussi.
Vous en faites pas, Huguette, il n'y a pas de souci.
Oh ben non, elle a un joli prénom, elle s'appelle Natacha,
ah oui,
vous
n'allez
pas l'appeler avec un prénom que j'aime pas beaucoup d'ailleurs,
non,
mais
d'accord.
Je ne vous dirai pas.
Et d'origine polonaise.
Vous êtes d'origine polonaise.
Bon. Ah oui.
Ben oui, Natacha,
donc,
c'est...
Très sensible, hein, les Polonais.
Ah bon?
Une âme slave, je crois que c'est quand même une âme qui est quand même assez sensible et... C'est bien, et je le paye aussi parfois un peu cher, cette sensibilité.
Ah oui.
Oui. Alors, quand c'est bien, c'est très bien, parce que je suis facilement en extase et facilement contemplative. Je me réjouis très vite. Mais pareil, à passer une mauvaise nouvelle, je peux me réjouir très vite. Mais par contre, voilà, j'accueille la mauvaise nouvelle très durement, et ça se ressent. Y compris, j'essaie de cacher, ça c'est, je sais qu'il ne faudrait pas le faire, mais j'essaie de cacher un peu les émotions, mais c'est compliqué en couple.
C'est marrant parce que ça me fait penser à la métaphore qui est celle de l'ascenseur émotionnel. Et vous, ce que vous racontez, c'est que cet ascenseur émotionnel, il monte haut et il descend bas, et ça peut être très rapide.
Je crois qu'on a un petit souci avec Natacha, qui, bon, c'est le direct, hein, mais en même temps, on peut pas, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si vous avez la possibilité d'avoir des émotions très, très joyeuses et très fortes et très agréables, ben, forcément, vous avez aussi le pendant.
C'est le revers de la médaille, en quelque sorte.
Donc, c'est ça aussi. Après, peut-être que ce qui est important aussi, c'est de comprendre, Natacha, comment vous ressentez les choses, déjà vis-à-vis de vous-même. Parce que j'ai l'impression que c'est dans le rapport aux autres que c'est peut-être compliqué, cet ascenseur émotionnel. Et pourquoi? Parce que vous avez besoin absolument de les exprimer, ces émotions. Vous avez besoin que ça sorte.
J'essaie de les réfréner, mais j'essaie de les réfréner, et en même temps, aujourd'hui, voilà, l'âge que j'ai, je ne devrais plus, puisque j'ai 50 ans passé.
Il n'y a pas d'âge pour ça.
Non, mais je me dis que je pensais que tout le monde était à peu près fait comme ça, et en fait, pas du tout. Pas du tout. Et par exemple, quand on vient de traverser ce qu'on a traversé depuis 2 ans, moi, ça me révolte. Certains, ils sont ravis. Voilà, on est sortis du confinement, on n'a plus de masque, on n'a plus rien. Mais voilà, la vie continue. Il s'est passé un petit épisode, c'est rien. Et pour moi, c'est assez énorme. Ça continue, ça me donne à réfléchir et je préfère plus écouter les médias. Vous voyez, je préfère me faire mon idée et plus partager. Mais à Noël, par exemple, j'ai préféré ne pas l'aborder dans les discussions ou m'extraire d'une discussion si je voyais que c'était mis sur le tapis.
Donc si je comprends bien, vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez sur ce qui se passe dans le monde, hein, et en France plus particulièrement, et peut-être en Pologne. Et ça vous met mal à l'aise si en face on n'est pas du même avis que vous, on pense pas comme vous. C'est ça que vous voulez dire?
Pas tout à fait. C'est que quand je vais être comment dire, quand je vais être un peu face, je sais pas si je vais trouver les mots. Effectivement, je voudrais qu'on m'écoute.
Oui.
Et les gens sont quand même, je trouve, qui campent un peu sur leur position. Mais ce qui s'est passé, si on reprend l'exemple par exemple de la crise qu'on vient de passer, et pour moi dans laquelle on est encore, j'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte. Donc je dois réfréner tout ce que moi j'aurais
envie de dire. Mais Natacha, ils ont leur position, mais vous avez visiblement la vôtre.
Aussi, c'est ça qui est intéressant, Natacha. C'est que ce que vous êtes en train de dire, c'est parce que quelque chose vous a touché profondément. Vous vous dites que ça devrait toucher les autres de la même façon que vous. Et votre réalité que génèrent ces ressentis n'est pas forcément la même réalité que les autres. C'est-à-dire que peut-être que certains qui ont passé la crise, eux justement, ce qu'ils veulent, c'est oublier ça parce que c'était trop dur. Et là où vous pensez qu'eux, ils mettent à distance et ils ont considéré que ce n'était pas important, bah, si ça se trouve, ce n'est pas du tout ça. C'est que ça, justement, ça les a beaucoup touchés. Et ils veulent profiter aujourd'hui de la nouvelle, enfin, d'un retour à peu près à la normale. Et ça ne veut pas dire que le fait de revivre quasiment à la normale fait qu'ils ont oublié ce qui s'est passé.
Et vous même s'ils ont oublié, ils ont le droit d'oublier, c'est leur ressenti
ça
à
leur
eux.
Appartient. Vous voyez,
je crois, Natacha, que ce qui, enfin, il me semble qu'en fait vous avez un besoin essentiel d'être comprise dans vos ressentis, mais
au risque d'imposer aux autres les mêmes ressentis.
Exactement, parce que si on ne...
Je me suis quand même beaucoup arrondie, on va dire, parce qu'alors au début...
Ah oui. Wow.
Bon, c'est bien, début, c'est bien, mais ça ne me paraît pas suffisant, Natacha.
Oui, il faut encore gagner un petit peu en maturité émotionnelle, Natacha.
Parce que vous voyez, si vous vous sentez, entre guillemets, hein, agressée parce qu'on n'est pas d'accord avec vous sur... bon, vous savez, ce qu'on a traversé, certes, ça a été très 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 difficile et douloureux pour vous, je peux l'entendre et je peux comprendre. Je peux comprendre. Et puis pour d'autres, ça a été finalement très anecdotique. Vous voyez, et c'est pas parce que ça a été anecdotique pour eux qu'ils vous rejettent. Mais vous vous sentez rejeté. Et c'est ça qu'il faut que vous travailliez. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec votre ressenti qu'on ne peut pas l'entendre. Mais si vous l'imposez comme étant la réalité, et on revient avec ce que vous disiez hein, très justement, Robert Herzuli, si vous considérez que c'est la réalité, que ça a donc été vraiment quelque chose de dramatique, de terrible, là forcément vous allez vous mettre...
Et vous allez déjuger l'autre, vous allez vous dire qu'ils ne sont pas responsables, qu'ils n'ont rien compris, qu'ils s'en foutent. Et cette question-là, cette notion du ressenti qu'on impose à l'autre comme étant la réalité commune, c'est ce qui crée tous les conflits dans les couples. C'est-à-dire que si moi...
Et dans les familles, d'ailleurs, il y a des conflits à cause de ces ressentis par rapport au Covid.
Si une femme ne se sent pas reconnue parce que, par exemple, elle a fait des efforts sur sa tenue et que son mari ne lui dit rien, elle va se dire qu'il s'en fout. Et elle va dire à son mari, mais tu t'en fous de moi. Alors que pas du tout. Il s'en fout pas, sauf qu'il n'a pas les mêmes repères. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans le couple, c'est que c'est une interaction émotionnelle et qu'il faut savoir s'ajuster l'un par rapport à l'autre.
Et je crois que ce sera vraiment là, ce que vous aurez apporté aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, c'est que notre ressenti est notre réalité, mais ce n'est pas la réalité pour tous. Et c'est
exactement.
Ça peut-être, Natacha, qu'il faut que vous arriviez à élaborer un peu plus pour avancer. Merci en tout cas. Et nous, on a compris que c'était votre réalité et on l'accepte pleinement.
Et on l'accueille.
Une petite pause et puis un love conseil. Je vous propose de faire l'amour dans une voiture, Robert Herzuli. À tout de suite.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, le Love Conseil.
Alors aujourd'hui, on va parler de l'amour dans une voiture. Demain, on parlera de l'amour dans l'ascenseur. C'est vrai que ça fait partie des fantasmes hein, de faire l'amour ailleurs que dans la chambre. Et c'est bien d'ailleurs, parce que c'est des fantasmes qui sont quand même assez faciles à réaliser. Dans une voiture, c'est quand même assez facile à réaliser, même si ce n'est pas forcément très pratique ni très confortable. Mais symboliquement, c'est quand même un lieu assez érotique. Alors peut-être moins maintenant, puisque la voiture est assez... C'est décrié. Hein,
oui, mais... c'est pas de l'amour écologique, c'est ça?
Je ne sais pas. Bah, on peut être en panne de sens hein, dans une voiture. Bref, en tout cas, ça représente quand même le lieu des premières fois. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont fait l'amour pour la première fois dans une voiture. Et c'est aussi le lieu des amants illégitimes. Donc, on voit bien la part fantasmatique de la voiture. Hein, voilà. Et puis, c'est aussi l'endroit où on peut être quand même surpris. C'est quand même quelque chose d'assez... Voilà, donc je trouve que c'est une belle manière de mettre un petit peu de ludique dans sa sexualité. Alors, attention toutefois de choisir un lieu propice, parce que je rappelle que c'est puni par la loi, puisque c'est considéré comme de l'exhibitionnisme. Hein. Donc, si vous faites l'amour sur les Champs-Élysées...
Sur un parking de centre commercial...
Oui, là je crois que c'est pas tellement conseillé. Moi, j'aime bien dans le parking, parce que dans un parking, on ne voit pas très bien ce qui se passe dans les voitures. Hein, voilà. Alors, si vous avez des ébats très, très torrides, la voiture va peut-être un peu bouger, mais ça restera quand même assez... assez discret. Hein.
Ça dépend de la voiture.
Dans une impasse, la nuit, c'est pas mal non plus, ça peut faire l'affaire. Alors, surtout, vous choisissez évidemment le côté passager, parce que du côté du conducteur, vous risquez d'appuyer sur le klaxon, et là, ça risque d'ameuter tout le quartier, c'est pas forcément une bonne idée. Alors, vous reculez évidemment le siège avant au maximum, et puis après, moi, je pense qu'il faut quand même penser à verrouiller les portes.
Mettre le frein à main aussi.
Oui, ça, ça me paraît évident, si, surtout si c'est une impasse qui est en pente. Mais oui, parce que les secousses du coït peuvent faire bouger.
Imaginez, c'est embarrassant.
La voiture. Et alors, si c'est pas tout à fait de nuit, vous avez des pare-soleil, vous pouvez même vous amuser. Enfin voilà. Et puis tant qu'à faire, prévoyez des vêtements adaptés à la situation, hein, parce que sinon, ça risque d'être une partie de très drôle, d'humour, mais pas finalement très très érotique. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un fantasme quand même assez facile à réaliser, même si vous avez une toute petite voiture.
Oui, presque tout le monde a une voiture, ou on peut se faire inviter dans une voiture, donc c'est pas très difficile, effectivement.
Voilà. Et demain, on parlera de l'ascenseur. Tout de suite, c'est un jouet qui s'appelle le Cochrane, vibrant, rechargeable, de la marque Sono, et c'est Jérôme qui l'a testé pour nous. Bonjour Jérôme.
Bonjour Brigitte, bonjour votre invité.
Bonjour.
Et alors bien sûr, on peut le retrouver sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Alors, c'est un truc un peu bizarre a priori, hein, Jérôme.
Tout à fait.
C'est vrai que ça fait tire-bouchon.
Oui, ça fait un peu tire-bouchon, oui.
Oui, au premier abord, c'est un peu spécial, on a l'impression que c'est un peu spécial. Il faut comprendre la façon de le mettre, en fait, surtout.
Bon, il y a des dessins, hein, c'est quand même assez, ouais, assez bien expliqué. Donc, vous avez introduit votre pénis et vos testicules dans une partie du jouet, hein, donc.
C'est ça, c'est un peu comme deux anneaux un peu élastiques.
C'est assez élastique, hein, je le précise, ouais, parce que souvent les Cochrane, c'est un petit peu... Hein, mais là, ça, je pense que même si vous êtes très, 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 très bien monté, ça doit passer.
Oui, alors vaut mieux le mettre en mode repos, on va dire, parce que
c'est
pas évident non plus.
D'accord. Ouais,
donc c'est quelque chose qui se prépare, du coup, mm-hmm, un petit peu, parce qu'après, oui, c'est du sport quand même, à le mettre en plein effort, on va dire.
Bon, vous avez entendu, Robert, hein. Jérôme va vous expliquer.
Non, c'est pas évident, mais en même temps, c'est marrant, quoi. C'est vrai qu'à mettre pendant l'acte, c'est...
Ah bah, pendant l'acte, ça me paraît difficile. Donc vous, ouais, mettez au repos. Ensuite, voilà, une fois que vous êtes en érection, vous appuyez sur le petit bouton pour que ça vibre. Hein,
tout à fait. Il y a quelques vitesses. Il n'y en a pas trop, donc c'est bien, parce que des fois, on peut se perdre à force d'appuyer.
Oui.
Mais il y en a suffisamment.
Il y en a 10 quand même. Hein.
Ouais. Bon. Ouais, mais ça va. Enfin, oui, c'est vrai qu'il y en a 10 quand même.
Il y a des vibrations comme toujours, hein, des vibrations plus ou moins fortes, puis après il y a des vibrations par saccade,
ouais, tout à fait.
Et puis bon, enfin bref, là je suis en train de tester toutes les vibrations. Ah, celle-là elle est pas mal, tiens. Regardez Robert,
la matière est assez douce, elle est noire, donc il est noir.
Il est beau, hein, c'est un bel objet, ouais. La matière en silicone est assez souple, etc. Et puis alors, l'intérêt de ce Cochrane, c'est qu'il y a une partie proéminente qui permet de faire de poser sur le clitoris, et donc madame peut en profiter également.
Tout à fait, donc on peut s'en servir pour le clitoris, et puis vaginal aussi.
Oui, pourquoi pas, oui.
Donc il a plusieurs...
C'est vrai, on peut l'introduire... Oui.
Tout à fait.
Vous avez raison. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Il est assez abordable, hein, 58,90 €. Ça reste abordable pour un jouet, oui, de cette qualité-là.
Ouais, c'est un bel objet, ouais. C'est ludique en même temps. Donc,
En tout cas, c'est la première fois que je vois ce genre de Cochrane, moi.
En tout cas, c'est un objet, on peut le poser. On n'a pas du tout instantanément l'idée que c'est un jouet sexuel.
Non.
Je trouve.
Non, bah non, il faut un peu d'imagination.
Ouais, hein. Oui,
c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est... Voilà, bon, écoutez, quelle note vous lui donnez, Jérôme?
Alors, écoutez, moi, je vais lui donner un 8, parce qu'à mettre en place, c'est pas évident, les premières fois. Et puis, ma femme lui a mis 10.
D'accord, donc ça fait 9. 8, 10,
ça fait 9. Tout à fait. Ça fait 9. Non, c'est un bel objet, oui.
Oui, non, franchement, il est sympathique. Ça s'appelle Cochrane Vibrant Rechargeable Sono et c'est sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Merci Jérôme, en tout cas, de l'avoir testé
Merci
pour nous.
Merci
et
demain,
on sera avec Philippe Arlin, sexothérapeute, et on évoquera le désir. On verra comment il s'inscrit et comment on le garde, le désir. C'est pas si simple et il faudra bien 2 heures pour expliquer tout ça. Et tout de suite, on retrouve Céline, qui est assez jalouse, je crois. Bonjour Céline.
Oui, bonjour. Oui, je suis même assez jalouse, oui. Possessive, même.
Ah oui. Mmh.
Alors, c'est pas une émotion, c'est un sentiment, un ressenti. Qu'est-ce que vous diriez?
La jalousie, c'est un ressentiment, parce que c'est un sentiment négatif et douloureux, éprouvé à l'encontre d'un tiers. C'est comme la rancune, la vengeance, enfin, la haine, des choses comme ça. Mais le fait d'être possessif, ça, c'est un trait de caractère. Mais ça parle de potentiellement deux émotions chez vous qui sont à l'origine de cette posture. C'est soit la colère, soit la peur.
Alors, je pense, y a beaucoup de colère, mais beaucoup de peur aussi, je pense, après avoir fait.
Oui.
La peur d'être pas à la hauteur, d'être abandonné, en fait, laissé pour quelqu'un d'autre.
Oui,
c'est ça. Et la colère.
Donc c'est la menace de l'abandon d'abord. Et ça vous fait... Parce que souvent, il y a l'émotion apparente et l'émotion dominante. L'émotion apparente, ça pourrait être la colère. C'est-à-dire que vous allez, une fois que la peur s'installe, qui serait l'émotion dominante, c'est la colère qui va s'exprimer parce que vous trouveriez ça injuste d'être mise de côté et abandonnée.
Oui.
C'est comme ça qu'on peut le lire chez vous?
Oui.
D'accord.
Oui.
Et est-ce que vous êtes assez, du coup, dans le contrôle et dans l'emprise? Ou pas? C'est-à-dire, est-ce que vous avez tendance à vouloir tout savoir, à contrôler votre partenaire
Oui, quasiment, oui. Ouais. Oui.
Donc là, il y a réellement chez vous une profonde blessure qui pourrait quand même se travailler un petit peu pour atténuer cette jalousie qui doit nuire forcément dans vos relations.
Puis c'est pas facile à vivre pour vous, même au quotidien.
C'est douloureux.
C'est facile à vivre
c'est
au quotidien douloureux. Parce que je me rends compte, effectivement.
Oui.
Et je me suis même demandé si j'étais une perverse narcissique.
Non, Céline.
Je suis, ça y ressemble beaucoup, en fait. Hein.
Non, pas du tout. Parce que d'abord, vous en êtes consciente.
Céline,
vous êtes consciente. Donc déjà, vous avez fait le premier pas.
Et le pervers narcissique, il ne souffre pas, lui. Il prend plaisir de la situation. Et vous ne me semblez pas être dans cette situation-là.
Non, parce que moi, j'en souffre.
Mais oui, on l'entend bien.
J'en souffre et je culpabilise même. Hein.
Et vous en êtes consciente. Donc ça veut dire qu'il y a possibilité d'en guérir un peu.
Maintenant, là où vous pouvez, faussement, vous demander si vous n'êtes pas perverse narcissique, c'est que peut-être vous en faites souffrir l'autre de ça. Mais c'est parfois le moyen qu'on trouve pour rééquilibrer nos émotions négatives, vous voyez. C'est-à-dire que puisque vous souffrez, il n'y a pas de raison de ne pas en faire souffrir l'autre, qui est d'ailleurs la cause de votre souffrance, en quelque sorte.
Oui, c'est un cercle, quand même.
C'est ça.
Oui. Vous êtes avec cet homme depuis combien de temps, Céline?
Bientôt 5 ans, maintenant.
Bon, est-ce que vous avez tendance à être de plus en plus jalouse ou est-ce que ça s'atténue?
Ben, disons que ça s'atténue parce que je m'éloigne, mes sentiments, j'ai l'impression qu'ils s'éloignent à force, qu'ils s'éloignent, en fait, qu'il y a moins de sentiments. Mais bon, disons que lui, il est beaucoup dans la colère aussi, donc...
Et comment il réagit de...
Ah, donc ça doit créer des vrais conflits chez vous.
Oui. Lui, il réagit, ben, il me dit, ben, écoute, t'as qu'à te casser, je t'aime pas, je t'ai jamais aimé, j'attends qu'une chose, c'est que tu t'en ailles. Et après, au bout d'une demi-journée, il va me téléphoner 30 fois. En fait, voilà, quoi, au lieu de me rassurer, en fait.
Oui. Non, parce que le pervers narcissique n'est peut-être pas du côté où vous le pensez, là.
Oui, enfin, il n'est peut-être pas pervers narcissique non plus. On va pas mettre ce...
Non.
On a tendance un peu à mettre ce mot à toutes les sauces. C'est pas forcément le cas. Céline, quand il dit t'as qu'à te casser, qu'est-ce que vous entendez?
Qu'il faut que je parte, que je quitte, que je m'en aille.
Alors, ce que je trouve bizarre, c'est que vous venez de me dire que ça s'est plutôt atténué, votre jalousie, depuis 5 ans.
Alors. Oui. Oui, mais en fait, il me la relance à la figure tout de suite. En fait, il va me dire, tu vois, t'as pas changé. Il suffit d'une réflexion.
Moi, ce qui me met un peu la puce à l'oreille dans votre témoignage, c'est que vous êtes peut-être pas aussi jalouse que vous le dites. Parce que quelqu'un qui, dès que vous lui faites une réflexion peut-être de contrôle qui n'est pas à faire, hein, pas en train de vous donner raison, mais que l'autre vous répond t'as qu'à te casser, ça peut expliquer que votre jalousie elle soit présente quand même.
Oui aussi.
Vous voyez.
Ce qui se passe, de ce que je perçois. C'est que pour moins souffrir de la situation, vous êtes en train de vous détacher.
Oui, je me détache.
Voilà.
Mais j'en souffre parce que.
Mais bien sûr.
J'en suis attachée. Enfin, je suis profondément attachée à lui, quoi. Mais j'en souffre.
Mais lui aussi, il est attaché. Puisqu'il revient tout le temps. Et puis qu'il vous envoie 30 messages, etc. Donc, voyez bien que vous êtes dans une relation toxique, tous les deux.
C'est ça. Ça, c'est sûr.
Oui.
Et c'est ça qu'il faut vous rendre compte, c'est que vous avez certainement l'un et l'autre une blessure qui, au lieu d'être complémentaire, s'oppose.
C'est ça. Et quand vous vous dites naturellement et justement, parce que votre émotion dominante c'est la peur, vous l'avez bien dit, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, et que vous avez besoin d'être rassuré, lui il vous rassure pas du tout, puisqu'il vous confronte. Au fait que il va se passer, il devrait se passer ce que vous craignez. Donc c'est là où c'est un peu pervers. C'est que il sent que cette souffrance est forte chez vous et il l'utilise contre vous. Donc
mais malgré lui, hein, parce que je pense qu'il est
faut l'espérer.
Au moins aussi fragile dans la relation amoureuse que vous. Hein.
Je pense qu'il est fragile aussi, oui.
Peut-être même plus que vous, d'ailleurs, parce que au fond, vous êtes capable d'exprimer quand même les choses assez clairement. Je suis pas sûre que si c'était lui qui avait appelé, il pourrait exprimer des choses.
Déjà, d'une, il l'appellerait pas. Pour lui,
ça c'est sûr.
Pour lui, il n'a pas de souci en fait. Pour lui, oui. Et lui, il n'a pas de souci en fait. C'est moi, essentiellement, moi le problème.
Oui, et lui, il n'a pas de problème. C'est en ça qu'il est quand même un tout petit peu pervers, parce que, enfin. Je ne sais pas si on pourrait appeler pervers non plus, mais en tout cas, il est très immature.
Il joue de vos sentiments.
Oui.
En tout cas, il utilise vos sentiments plutôt que de se remettre en question.
C'est ça.
C'est ça.
Et il ne faut pas que vous rentriez dans son jeu.
Oui, c'est pour ça que je me détache, mais j'ai mal.
Mais il ne faut pas que vous rentriez dans son jeu, parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir et vous n'allez pas pouvoir sauver la relation. Vous avez envie de la sauver, la relation ? Vous avez envie de rester avec lui ?
J'ai envie de la sauver, la relation, et je sais même... En fait, je suis arrivée à un point où il me manque, mais je ne sais plus quoi faire, en fait.
Oui.
Bon, ce qu'il va falloir faire, Céline, c'est déjà... quand il vous dit casse-toi, essayez, mais je ne sais pas si ça sera possible pour vous, mais essayez de le regarder gentiment et de lui dire mais c'est pas ce que tu as envie, ce que tu es en train de me dire, mais le plus gentiment possible, et voir comment il réagit, s'il est capable de lâcher quelque chose ou pas.
J'ai essayé.
Et alors ?
Il lâche rien.
Oui, quand il est comme ça, il est colérique, en fait. Hein.
Oui.
Comme le petit garçon qui casse son jouet, plutôt que d'accepter de reconnaître qu'il l'a mal utilisé.
Oui.
Oui.
Oui, c'est, tout à l'heure, Brigitte, vous avez employé le mot toxique. Cette relation, en tout cas en l'état actuel, semble effectivement toxique. Et c'est ce qui fait que vous êtes confronté à ce qu'on appelle une contrainte paradoxale. C'est-à-dire que vous avez envie de sauver la relation, mais en même temps, vous avez envie de vous sauver de cette relation. Et ce qui fait que ça nous rend fous, parce qu'on ne sait pas quoi faire. On a envie de préserver, mais en même temps, on se rend bien compte que pour se préserver, il faut prendre de la distance. Et ça vous impose soit de poser des règles qui doivent changer les choses dans votre manière de communiquer ensemble, soit de rompre la relation pour vous en protéger. Et ça, il n'y a que vous qui le savez. C'est-à-dire que ça dépend du niveau de souffrance que vous ressentez dans cette relation.
Si vous ne faites rien, à plus ou moins long terme, la relation ne tiendra pas. Et ça, je crois que vous le savez.
Oui, je sais bien.
Bon, donc ce que vous propose Robert Zully, vous ne changerez pas, on ne change pas l'autre. Hein. En non. revanche, vous pouvez changer la manière de vous comporter vis-à-vis de lui. Alors, moi, dans un premier temps, je vous conseillerais de prendre un tout petit peu de distance.
Oui, mais c'est ce que je fais. Bon, ben, ça fait pas longtemps, ça fait déjà que 3 jours où je refuse tout contact avec lui téléphonique. Je suis sur la route. Voilà, je refuse tout contact. La première journée, bon, il a eu du mal à comprendre. Il m'a téléphoné 32 fois. Hier, il m'a téléphoné une fois en envoyant un message. Je n'ai pas répondu. Et aujourd'hui, bon, il n'a rien fait. Donc, il est bien resté.
Oui, mais il ne faut pas non plus que vous soyez trop à distance non plus, parce que vous allez le perdre. Ce n'est pas ce que vous avez envie. Je crois qu'il faut.
Je ne sais pas, je l'ai trouvé calme quand je rentre le soir aussi.
Bah, si vous vous sentez mieux quand il n'est pas là, c'est quand même signe qu'il faut peut-être arrêter la relation.
Je ne me sens pas mieux quand il n'est pas là. Il me manque. Hein.
Bon, bah, il faut pas passer d'un extrême à l'autre, encore une fois. Il ne faut pas tout lui passer. Comme si, dès qu'il revient, il vous pardonnait tout. Il ne faut pas tout lui passer, mais il ne faut pas non plus le mettre totalement à l'écart, vous voyez.
Il faut définir un mode de fonctionnement entre vous qui soit acceptable pour les deux.
Dès qu'il dépasse ce que vous considérez comme
acceptable,
vous sortez. Vous allez dans une autre pièce. Vous ne le laissez pas empiéter sur ce que vous considérez votre zone de sécurité.
Et ça, il faut le dire avant, parce que sinon, il ne va pas le comprendre. Et donc, vous posez ce cadre et ses limites. Moi, et si elles sont enfreintes, bah, vous mettez en œuvre ce que vous avez décidé
vous partez,
de faire.
Vous partez. Parce qu'en fait, Céline, ce que je vous conseille, c'est de lui envoyer un SMS en lui expliquant « Je suis prête à te revoir, mais il va falloir qu'on change notre mode de relation parce que sinon, parce que ce n'est pas possible pour moi, je souffre. »
Je rentre tous les soirs, on se voit. Hein.
Ah bon, d'accord. Je croyais
oui, vous vivez ensemble alors.
D'accord.
Oui, on vit ensemble.
Bon, et bien donc... Ce soir, vous lui expliquez qu'il va falloir éviter ce genre de conflit continuel inutile. Et chaque fois que ça monte dans les tours, vous changez de pièce ou vous sortez. Vous ne laissez pas les choses prendre cette ampleur. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quand il commence à bouillir comme ça, comme il ne pourra pas vous utiliser comme punching ball, ça va le remettre en question. Et ça va peut-être le faire changer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'au fond, il monte dans les tours, il s'énerve, et c'est vous qui prenez.
Oui, parce que c'est... Oui.
Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions, son excitation, sa colère, tout ce que vous voulez. Donc c'est vous qui prenez. Mais vous n'êtes pas là pour absorber ce qu'il ne sait pas gérer. Vous comprenez? Donc dès qu'il monte dans les tours...
Dès qu'il déborde...
Vous partez. Vous restez pas. D'accord.
D'accord, mais bon, quand j'ai besoin d'être rassurée, c'est moi qui commence, c'est moi qui va lui commencer à lui dire bon ben ça j'accepte pas ou j'accepte pas qu'il passe parce que bon.
Mais vous avez le droit de lui dire exactement ce que vous êtes en train de nous dire. Vous avez le droit de lui dire quand je te parle de ça, en fait j'ai besoin d'être rassurée et j'entends autre chose qui me confronte et qui me culpabilise. Comment on pourrait faire pour être aidé plutôt que être
Sauf que quand Céline, vous avez besoin d'être rassurée, mais il a encore plus besoin d'être rassuré que vous. Et c'est pour ça que la relation est difficile, parce qu'en fait, vous le renvoyez à ses angoisses doutes, et ses inquiétudes quand vous avez besoin d'être rassuré. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Allez, on fait une petite pause parce que l'heure, c'est l'heure. Robert Zully,
on
se retrouve dans un instant sur Sud Radio.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Robert Zully est avec nous, psychologue clinicien, et vous travaillez beaucoup sur les émotions depuis de nombreuses années. Vous avez même monté des systèmes qui nous permettent de mieux nous comprendre et de mieux comprendre les relations. Et merci d'être avec nous. Je crois qu'on a donné beaucoup d'informations depuis 14 heures qui peuvent aider.
Oui, c'est un sujet riche.
Oui. Hein,
la communication dans le couple, sans fin. Et avec plein de subtilités et aussi de la douleur et beaucoup de plaisir. Donc c'est ce qui fait que c'est un sujet permanent de préoccupation.
Thierry, bonjour.
Et bonjour Brigitte, bonjour Robert.
Bonjour Thierry.
Donc vous êtes en couple depuis 7 mois, hein, c'est ça?
Oui.
Jeune couple donc?
Oui, on s'était vu Brigitte concernant ce début un peu calamiteux. Par rapport, c'était un autre sujet, mais donc voilà.
Et ça va mieux ?
Oui, oui, ça va mieux parce qu'en fait, je me suis retrouvé face au mur. En fait. C'était ça ou c'était fini, quoi.
D'accord. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous étiez face au mur ?
Bon, parce que j'étais trop loin, enfin trop loin dans ma non-gestion, on va dire, de émotionnelle, quoi.
D'accord. Et c'est quoi ? C'est de la colère ?
C'est du silence, c'est...
Non, pas moi, silence, non, pas du tout.
Non.
Non, ça passe par la joie, puis la peur, parce que je pose des questions, j'annonce mes sentiments, je me livre beaucoup. Mmh. Et enfin, c'est mon beaucoup moins, en fait. Alors je me dis, bon, ben, est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que toi, là...
Donc vous êtes sensible, vous avez besoin d'exprimer vos émotions. Et comme souvent, vous avez choisi quelqu'un qui est beaucoup plus tempéré.
Voilà, alors elle est beaucoup plus... Elle analyse tout.
Oui.
Avant de parler,
avant de parler, c'est réfléchi, il n'y a pas de... C'est pas... Voilà. Mais par contre, c'est... Les émotions, elle les montre pas non plus, pas autant que moi. Le je t'aime, elle va pas le dire comme ça.
Et ça vous inquiète, hein, cette entre guillemets froideur.
Ça m'a inquiété en fait, et en même temps, comme vous dites, je me rends compte que son côté posé me fait du bien en fait.
Mais évidemment, parce que si vous aviez en face de vous la même personne que vous. Eh ben, dites donc.
Elle a des ascenseurs émotionnels, vous en auriez, et ce serait ceux d'une tour de 300 étages. Donc, vaut mieux que vous ayez quelqu'un qui tempère tout ça.
C'est exactement ça, oui. Je me rends compte que ça fait du bien, que ça me fait réfléchir. Je prends sur moi, je me pose des questions en moi, en fait. Et si vous voulez, quand je dis que je me suis retrouvé dos au mur, c'est que. Bon, j'étais très loin dans mes colères, dans mes peurs, à poser des questions, à fouiller.
Oui. Ah oui, à être intrusif.
Ouais, beaucoup trop.
Bon,
ouais,
écoutez, on est malheureusement.
On
est malheureusement obligé d'en rester là, Thierry, mais je vous propose, si vous voulez, demain à 14h, on vous reprend parce qu'il y a beaucoup de choses à dire hein, sur tout ça. Ce ne sera pas avec Robert Zully, malheureusement, mais ce sera avec Philippe Arlin. Mais là, on est obligé de rendre l'antenne. C'est terrible comment ça passe.
Oui, ça va créer des émotions. Ça...
Une frustration, là, oui. C'est clair. Je suis désolée, Thierry, mais je vous reprends demain si vous voulez parce que vraiment, on peut vous aider. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir et nous on se retrouve demain à 14h.